comme on n'était pas tout à fait prêt, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne.
Déjà ?
Non, mais quelqu'un parle, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac.
Alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite?
Bah là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage?
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes mercredi et c'est maintenant l'heure de Caméra Subjective. Bienvenue à l'écoute de votre magazine consacré au cinéma sur Radio G. Comme chaque fois, cette émission a été fabriquée à plusieurs. Et avec moi dans le studio, il y a Véronique. Bonsoir Véronique.
Bonsoir Margot.
Moi c'est Anne-Lee, mais Margot n'est pas là, mais on pense à elle.
Voilà, c'est parce que je pensais à elle, parce qu'elle est absente.
Je pense que ça traduit nos pensées très chaleureuses, Margot qu'on salue particulièrement. Elle est ailleurs, mais vous l'entendrez grâce à la magie de la rediffusion. On a choisi de vous faire réentendre la toute première chronique cinéma de la saison. C'était à propos d'un livre et ce sera en toute fin d'émission. Mais avant, ce qui fait le cœur de notre émission ce soir, ce sont nos invités. Et je laisse le soin à Véronique de vous les présenter.
C'est avec grand plaisir que nous recevons ce soir le collectif La Poste, La Poste sans E. Puisque nous allons à nouveau parler de post-production audiovisuelle. Le collectif La Poste, on le trouve au Poncé. Ils sont installés à Rivedart. Et si vous vous rappelez bien, on avait déjà parlé dans une émission précédente centrée autour du montage et de la composition d'autres personnes de ce collectif. Pour nos auditeurs et auditrices qui découvrent La Poste, on vous renvoie vers cette émission du 24 novembre où nous avions pris le temps de présenter le collectif avec Cécile et Mathieu. Ce soir, pour notre plus grande joie, La Poste est de retour avec deux nouveaux membres du collectif qui vont nous donner l'occasion de découvrir d'autres métiers de cinéma. Nous sommes avec Étienne Chambol, bonsoir.
Bonsoir.
Et Samuel Robin, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Nous allons donc commencer ce petit temps d'échange. Étienne, tu es ingénieur du son et mixeur. Tu as travaillé pour la radio, le cinéma, avec des fictions et des documentaires. Et depuis quelques années, tu t'intéresses tout particulièrement au son spatial et aux nouvelles technologies de diffusion, dont on pourra parler plus en détail tout à l'heure.
Oui.
Samuel, tu es étalonneur numérique et monteur, notamment. Nous allons surtout reparler de cela aujourd'hui. Tu es entré dans les métiers du cinéma par le montage. Tu as ensuite parcouru plus largement l'exploitation cinématographique avant de revenir à la post-production avec l'étalonnage et le montage.
Oui.
Bien sûr, on salue également l'ensemble de l'équipe de La Poste en rappelant qu'ensemble, vous couvrez une grande partie des métiers du cinéma et de l'audiovisuel du côté de la post-prod. Avant de voir comment vos activités se rencontrent dans leurs moyens de fabrication, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent vos deux métiers ? Je vais commencer par toi, Samuel.
Je vais plutôt parler de l'étalonnage, du coup,
oui.
Puisque on a des, je crois que Cécile avait déjà
parlé
abordé
du montage.
Le montage. L'étalonnage, c'est la finition de l'image, si on peut dire. C'est la partie qui arrive après le montage. Donc il y a les deux parties, il y a le mixage et l'étalonnage. Il y a deux types d'étalonnage. Il y a l'étalonnage technique, on va dire, qui est vraiment la mise aux normes des images et puis l'étalonnage des lumières dans le film et des couleurs. Et après, on va avoir plutôt un étalonnage esthétique, un étalonnage de look, où là, on va vraiment créer un style, créer une image, voilà.
Et ça concerne les couleurs, c'est vraiment la matière de travail, la lumière, les couleurs.
Ouais, notamment. Après, ça peut aller plus largement sur plein de choses, on peut rentrer dans plein de détails dans l'image, mais on va dire que largement, c'est ça.
Ça veut dire que tu contribues à faire une bonne image. Et est-ce que tu as appris des critères? Est-ce que tu travailles selon des critères? Comment tu construis cette qualité d'image?
Ça dépend déjà de ce qu'on fait comme type de film. Si on fait de la fiction, du documentaire, du film institutionnel. Après, c'est vraiment normalement une discussion à trois, en fait, avec le réalisateur et le chef opérateur, qui se fait en amont, où là, on va décider des choix esthétiques du réalisateur et des choix que le chef opérateur va faire aussi. Enfin, voilà. Là, normalement, c'est une rencontre qui doit se faire avant, en pré-production. Et après, du coup, on peut même faire de ce qu'on appelle des luttes, c'est-à-dire qu'on fait un pré-étalonnage sur des images de test, on va dire. Et cette lutte-là va servir sur le tournage. Donc, le réalisateur va regarder ces images avec... donc, la lutte, c'est un fichier... Enfin, c'est un... Comment dire ?
C'est une transformation de
l'espace
colorimétrique. Du rendu de l'image en couleur.
Donc, on peut utiliser aussi pendant le tournage. Voilà. Et après, évidemment, quand arrive le montage, eh ben, on essaye de raccorder tout ça, tous les plans ensemble, pour créer une continuité de narration aussi.
Mais est-ce que ça veut dire que tu es le sauveteur du directeur photo ? Enfin,
alors j'aimerais bien. Finalement,
est-ce que finalement le directeur photo, s'il fait bien son travail, est-ce qu'il a quand même besoin de toi ?
Oui, oui. On a toujours besoin d'un étalonneur.
Peux nous donner des exemples, du coup, de... Mettons que l'image est vraiment très bonne, mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour...
Ce que je disais tout à l'heure, notamment... De toute façon, il y a toujours les plans à raccorder. Même si le chef opérateur, il est hyper fort, il y aura toujours des petites variations de lumière, même sur un champ contre champ, en fait. Enfin, c'est... Voilà. Il y aura toujours, de toute façon, un rééquilibrage à faire. Du coup, après ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment quand on crée un look, quand on crée une esthétique, et du coup, ça, c'est à nous de le faire après.
Est-ce que tu aurais un exemple d'un des derniers films que tu aurais étalonné pour nous faire comprendre ce que tu as amené en fait pour créer ce look ?
En fiction, en fait, c'est plus parlant en fiction. Après, en documentaire. C'est souvent on demande plus d'aller à l'efficacité que voilà, enfin ça dépend des documentaires évidemment, mais on va dire pour le documentaire télé. En fiction, là il y a vraiment une discussion avec le chef opérateur et le réalisateur, ouais. Donc souvent le réalisateur il arrive avec des références d'autres films qu'il a vus, qu'il aime bien, et donc du coup on essaye d'aller dans ce sens là.
D'accord.
J'ai l'impression que c'est aussi un métier assez spécifique. Peut-être on ne se rend pas compte de toutes les choses qui se passent dans ta partie de travail, nous en tant que spectateurs, spectatrices. Et il y a peut-être un rapport entre les images, quand tu les mets côte à côte, de se dire là, il y a besoin d'intervention ou non. Enfin, je ne sais pas si ça se passe presque invisible, mais en fait très présent.
Alors là, par exemple, l'avantage qu'on peut avoir à La Poste, c'est que du coup, comme moi, je travaille pas loin de Cécile qui est monteuse, en effet, des fois, elle peut avoir besoin de me demander si à un moment, ces deux plans qui ne paraissent pas raccordables vont quand même pouvoir être raccordés grâce à l'étalonnage. Mmh. Ça, c'est un des avantages qu'on a, nous, d'être l'un à côté de l'autre. Sinon, le monteur, il doit imaginer si ça va être possible. Mais oui, en effet, des fois, il y a des plans qui, quand on les met côte à côte, le raccord ne passe pas à cause de ça. Parce que les lumières sont vraiment trop disparates, alors qu'avec un étalonnage, après, ça peut être raccordable et le raccord peut passer.
Et alors, aujourd'hui, tu travailles sur des fichiers numériques.
Ouais.
Donc, on imagine que tu utilises des logiciels.
Ouais.
Donc, quels sont ces logiciels ?
Alors, le plus classique, c'est DaVinci Resolve.
D'accord.
Qui est, après, il existe d'autres logiciels qui vont être plus spécifiques vraiment aux gros laboratoires comme Baselite. Il y en a plusieurs, Lustre. Mais le plus classique, c'est DaVinci Resolve. Et voilà, on dit étalonneur numérique en comparaison avec l'étalonneur qui était chimique avant avec la pellicule.
Alors voilà, ça, c'est une de nos questions à suivre. C'est comment ils faisaient avant ?
Ils faisaient au développement, sur la pellicule, en fait. C'était au développement de la pellicule.
Mais ils agissaient avec des produits chimiques ?
Ouais.
Ah ouais.
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait qu'une seule intervention possible ou il y avait un travail à partir de copies ?
Oui, c'était pas la même chose. Après, on pouvait numériser la pellicule pour quand même faire un étalonnage numérique derrière. Souvent, il y avait plusieurs étapes comme ça. Où on faisait
Et toi, tu l'as expérimenté, ce travail chimique ?
Non.
Ça doit être un autre métier. Hein.
Ah oui, complètement, oui. Oui, c'est pas du tout le même.
Et du coup, je me disais, ce travail sur la lumière, sur les couleurs, ça me fait penser aux peintres.
Ouais.
Est-ce que parfois tu as l'impression que ton ordinateur, ou en tout cas que ta souris, c'est un pinceau ?
Non. Mais par contre, c'est vrai que c'est quelque chose. Avant l'étalonnage, où j'étais pas forcément l'art en général, et je m'en rapproche de plus en plus parce qu'il y a un vrai besoin d'être sensible à ça en fait. à l'art en général, à la peinture, à la photographie, enfin dans à tout plein de d'art, bah, dans de l'image en fait. Donc ouais. Donc en effet, il faut s'inspirer.
Nous allons poursuivre cet échange avec Étienne avant d'avoir un échange avec vous deux. Étienne, donc tu es ingénieur du son.
Oui.
Mais on a l'impression que derrière ce mot, ces trois mots, il y a beaucoup de métiers possibles pour faire ingénieur du son. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toute cette diversité de métiers qui se cachent derrière ça ?
Ben, si on parle uniquement dans le domaine du cinéma ou de l'audiovisuel, on va dire déjà, il y a effectivement plusieurs métiers qui sont historiquement très séparés entre l'ingénieur du son de tournage, donc qui va aller prendre le son lors des tournages, que ce soit sur un plateau de cinéma ou en documentaire, et puis après donc, les métiers de la post-production du son, donc il y a le monteur son, qui en général c'est un peu les mêmes formations, ils viennent vraiment du son plus que du montage, souvent les gens. Et puis, la dernière étape pour le son, on va dire, ça va être le mixage, donc le mixeur. Voilà. Donc, effectivement, c'est des métiers qui, historiquement, étaient très, très séparés. Et puis, en fait, avec l'arrivée du numérique, ça s'est un peu mélangé. Donc, il y a eu, dans les années 90, ça a été où il y a eu les premiers ingénieurs du son en long métrage qui faisaient la prise de son au tournage et notamment le mixage derrière. Ce qui était un peu nouveau, ça ne se faisait pas du tout avant. Voilà. Mais donc, c'est effectivement des métiers, ce n'est pas les mêmes qualités en fait, qu'on demande. En tournage, ça va vraiment être, il y a une dimension physique qui est évidente, et puis une dimension de relationnel du vécu, du déplacement dans l'espace, enfin, ce genre de choses. Et des outils techniques qu'on n'utilise pas, nous, en post-production. Les enregistreurs, les micros HF, on n'en a pas en post-production. Et en post-production, donc bah, on est forcément maintenant complètement que sur des ordinateurs, hein, même si ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Et donc il y a des logiciels qu'il faut maîtriser qui ne sont pas du tout utiles au tournage en fait. Donc c'est des choses où on peut spécialiser par goût, où on peut aimer aussi avoir envie de faire tout, ce qui donne une continuité sur le son et ce qui est très intéressant aussi. Ouais.
Je vais peut-être revenir sur le moment du tournage. Quand tu intègres une équipe de tournage, est-ce que dans le scénario, il y a des indications qui t'aident à préparer ton travail de prise de son ?
Alors donc là, si on parle de scénario, c'est qu'on est plus dans un cadre fiction. Hein,
d'accord,
donc,
ouais.
Alors il peut y en avoir, mais pas toujours, en tout cas pas directement en tant qu'information de son. Donc après, il peut y avoir des intentions, mais... Très honnêtement, le tournage, ça va quand même énormément être de capter les dialogues proprement et puis d'aller chercher les sons qui vont être utilisés derrière aussi. Donc ça peut être les ambiances d'environnement, les bruitages liés à des éléments du décor qui sont sur place, qui sont plus simples à faire ou des choses comme ça. Donc il y a souvent une intention sonore sur l'ensemble du film, mais au moment du tournage... En fait, c'est quand même beaucoup centré sur les voix et les sons autour. Donc c'est quand même, objectivement, c'est quand même régulier, un peu toujours la même chose. D'accord. De ce qu'on va attendre, quoi. Mm-hmm. Les visions esthétiques, elles ne vont pas se faire vraiment au tournage, sauf cas très particuliers. Mais sur la fiction, c'est vraiment le dialogue qui mm-hmm. prime dans le travail de l'ingénieur du son au tournage. Ouais.
Donc c'est plus sur des moments de fiction, au moment de la post-production, où tu vas intervenir avec le mixage, cette partie d'écriture, de création ?
Oui, on peut l'avoir, oui, c'est vraiment lors de la post-production. Alors pas forcément la post-production son, mais ça peut être aussi même dès le montage, en fait. Ouais. On peut avoir plein d'éléments sonores qui sont très importants à l'histoire, donc ils vont être en fait travaillés par le monteur image, puisqu'en fait c'est le premier qui va toucher la matière du tournage, c'est pas le monteur son, ça va être le monteur image ou la monteuse image.
Il est obligé de travailler le son.
Voilà. Il va monter les directs, donc c'est le son vraiment synchrone qui a été pris au tournage. Il va monter les ambiances qu'il y a au tournage, il peut en rajouter. On va dire oui, il y a toujours. Alors après, selon le scénario, il y a peut-être des enjeux de son dès le tournage dans des cas précis, mais on va dire grosso modo quand même sur des fictions classiques. Le gros enjeu, c'est les voix et de préparer les sons dont on aura besoin après, mais ils sont pas. Il y a rarement des temps dédiés que à ça au tournage, par exemple.
Bien sûr. Et du coup, moi, je pressens déjà un petit peu, mais toi, dans toutes ces étapes de travail, mettons sur la fiction, qu'est-ce qui t'intéresse le plus ? Sur quoi tu as...
Bah, sur la fiction, c'est très clairement la post-production.
C'est ce que, c'est ce que ça laissait présager. Ouais.
Non, par contre, le documentaire, j'aime beaucoup faire tout.
D'accord.
Voilà. Mais...
C'était la question suivante, sur quel type de projet, ouais, au-delà de la fiction, aimes-tu t'engager ?
J'ai fait beaucoup, beaucoup de documentaires, et c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Mais j'ai fait de la fiction aussi, et je continue à en faire. Voilà. Mais c'est vrai que le tournage en fiction, pour moi, m'a précisément... Il y a des enjeux techniques, il y a du très beau matériel, donc c'est satisfaisant de ce point de vue-là. En général, quand on est ingénieur du son, on aime bien le matériel quand même.
Ils aiment beaucoup le matériel. Ouais.
C'est assez partagé chez les ingénieurs du son. Donc là, on a des très très belles machines et c'est très agréable. Mais c'est vrai que je trouve que je m'intéresse plus à la partie de la post-production pour la fiction, même.
Et alors, tu as déjà une carrière riche d'expérience et avec Annie, on est très intrigués par le travail que tu fais sur l'espace en lien avec le son.
Oui, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a 2016, j'ai commencé, donc c'est pas très vieux dans ma carrière, on va dire.
J'ai l'impression que tu as 100 ans.
Mais avec l'arrivée de la réalité virtuelle, en fait, ça a relancé complètement... de la création sonore, du travail du son spatial qui était très très spécifique et très pointu avant, qui n'était vraiment pas utilisé de manière très répandue. Et en fait, ça, l'arrivée de la réalité virtuelle a fait que des outils sont apparus, des outils numériques qui permettent d'accéder facilement à un travail sur la spatialisation du son et des sons vraiment un travail... qui n'était pas possible avant, en fait, même de changement de paradigme sonore, on peut le dire, puisqu'on est en train de quitter le son qui est défini par le nombre d'enceintes qu'on a pour écouter, donc la stéréo ou le 5+1 par exemple, pour passer dans un domaine sonore où le son est défini différemment, il est défini par rapport à un espace global et pas en fonction de comment il va être restitué derrière. Donc c'est assez vertigineux, même pour un ingénieur du son, mais c'est passionnant.
D'accord. Ouais.
C'est vraiment, on rentre dans une création d'espace qu'on n'avait pas tant que ça, enfin qui était limitée avant de par des choix de travailler en fonction du nombre d'enceintes qu'on aurait.
Est-ce que tu peux nous dire du coup où se place le spectateur ou l'auditeur dans cette expérience-là ?
Alors ça va dépendre en fait comment les utiliser, puisque maintenant tous ces outils de spatialisation sont énormément utilisés en scénographie, en théâtre, en réalité virtuelle, donc avec des casques.
Tu peux redire ce que c'est, la réalité virtuelle ?
La réalité virtuelle, donc, c'est des casques, des lunettes qu'on met sur les yeux, qui, en général, nous cachent... alors, c'est très, très vaste. Hein, y a un grand débat sur les termes de réalité virtuelle, réalité augmentée, la XR, la VR. Voilà, donc, c'est la VR, le terme usuel. Et donc, c'est... En fait, on porte un casque, donc on est immergé... on ne voit que tout ce qui nous entoure, en fait, c'est une image...
Un écran,
enfin, ouais, envoyé par un écran, et ça suit nos mouvements de tête, donc on peut se déplacer dans l'idéal librement dedans, dans un monde qui a été créé, ou qui peut être aussi une restu de la vidéo, voilà. Et donc le son doit suivre, puisque par exemple, si on tourne la tête, en fait, ce qui est devant devient derrière, et ce qui est à gauche peut passer à droite, donc forcément, on n'est pas comme au cinéma, où c'est figé... par rapport au film, voilà.
Ouais, s'il faut nous
rendre... Il y a une dimension un peu interactive qui est assez intéressante.
D'accord.
Donc on peut s'en servir là-dedans. Mais par exemple, on s'en sert aussi beaucoup maintenant. Peut-être les auditeurs connaissent le terme binaural.
Alors moi, je veux bien un petit peu d'explication.
Voilà. Binaural, donc, c'est un terme en fait, qui veut juste dire que chaque oreille entend uniquement ce qui lui est destiné. Alors que quand on écoute par des enceintes, si vous avez l'enceinte à gauche, les deux oreilles vont l'entendre, alors pas en même temps et pas au même niveau. Et donc là, le son vraiment est séparé pour chaque oreille, et ça va permettre en fait de le trafiquer ou de le traiter pour pouvoir restituer un son qui vient du haut, du bas, de devant ou de derrière. Voilà.
Ouais, c'est impressionnant. Ouais.
Et donc par exemple, ça s'utilise maintenant avec l'explosion des podcasts, qui sont rien d'autre que de la radio, mais bon... Il y a beaucoup de podcasts en binaural où le son est spatial, et donc ça utilise ces outils-là. Voilà. Et c'est une des formes possibles d'utilisation de ce son.
J'ai un peu l'impression d'être sur une table de chirurgien quand on décrit qu'on va opérer un son pour chaque oreille.
Mais c'est impressionnant à entendre, par contre.
Ouais, j'imagine que c'est, ouais, ça doit être une...
C'est des grosses expériences quand même.
Oui, est-ce qu'on peut vraiment avoir l'impression qu'il y a une main derrière sa tête, enfin, on a vraiment des sensations qui peuvent être très physiques aussi. Ça rejoue quelque chose, ça peut être naturaliste, c'est pas obligé, mais non, en tout cas physiquement
matière à création.
Et alors, est-ce que dans la VR il y a de l'étalonnage?
Ah bah oui, alors moi je fais pas de... parce que je l'ai jamais fait en fait, parce qu'on me l'a jamais demandé. mais oui, après c'est quand même souvent dans la VR de l'image de synthèse. Après il y a de la captation, ce sera de la captation 3D du coup. Non, moi j'ai pas du tout d'expérience là-dedans. Là, je peux pas répondre, mais évidemment qu'il y a l'état, il y a toujours l'étalonnage. Mais...
Et alors du coup, est-ce que le travail d'étalonnage et le travail du coup la plus de post-prod son et de mixage, comment ils collaborent? Est-ce que c'est des étapes distinctes qui n'ont pas à discuter et négocier ensemble?
On est distinctes parce que il y a l'image.
Pour le coup, autant le montage. Nous concerne tous, autant on est vraiment les deux tâches, enfin en tout cas le mixage et l'étalonnage, c'est les deux dernières tâches sur l'image ou le son du film, et elles sont très souvent faites en parallèle parce qu'on n'a pas d'interaction en fait.
Quand le montage est loqué en fait, y a le montage son qui passe par là, mais après nous on peut bosser en même temps en fait, parce que du coup le montage de toute façon il est figé. Donc les deux peuvent cohabiter et c'est ce qui se passe. Et en gros, oui, on est tous les deux un peu à la même étape d'embellissement. En fait, c'est le dernier embellissement de la matière, quoi. C'est la finition de l'image et la finition du son.
Et d'ailleurs, souvent, tu travailles sans le son.
Ouais, mais ça, faut pas le dire. Non, si, je travaille avec le son. Non, mais je peux travailler à un moment dans
le travail. On peut étalonner sans avoir le son, en fait. S'il n'est pas fait, il n'y aura pas le son.
Au début, j'en ai besoin pour les intentions, pour comprendre les intentions, parce que l'étalonnage suit quand même la narration, et donc les intentions de montage et tout ça. Mais il y a un moment, quand je rentre dans l'image, des fois, oui, en effet, ça peut m'arriver de pas
avoir le son. Et justement, de travailler avec ou sans le son, quand on étalonne, est-ce que c'est...
Non, il faut le son.
Il faut le son, oui, mais... d'avoir des étapes, d'accord, donc c'est plus non conventionnel. Je me demandais si c'était...
Non, moi, on travaille avec le son. Des fois, ça m'arrive parce que... En fait, c'est moins
j'imagine que ça peut parasiter aussi.
En mixage son, évidemment. Mais c'est vrai que quand on étalonne, encore une fois... Alors là, encore une fois, je parle de la fiction, c'est vrai que c'est compliqué de parler de tout en même temps.
Oui, on fait pas que
chaque fiction. Type de film est différent, mais la fiction est plus parlante. Et j'ai besoin du son pour comprendre les intentions, et donc suivant la musique, suivant le son direct, c'est pas ça va donner une intention à l'image. Alors souvent je la comprends avant, mais c'est nécessaire quand même.
Ce que je trouve très intéressant dans vos parcours, c'est que l'un comme l'autre, vous avez englobé plusieurs métiers. Et du coup d'abord pour toi Samuel, est-ce qu'il y a d'autres métiers liés à l'image, ou en tout cas projection, montage, étalonnage, que tu aimerais explorer, découvrir dans le prolongement de tous ces savoirs que tu as déjà?
C'est une bonne question. Non, j'avoue que... En même temps, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps qu'au final, parce que j'étais en effet projectionniste aussi, et pour le coup, là, en tant que projectionniste, j'ai touché la pellicule. Et en fait, je me rends compte que tout ça n'était pas si éloigné que ça. En fait, j'étais toujours sur une étape avec la... Parce que je n'ai pas fait d'étalonnage chimique, mais par contre, j'ai manipulé la bobine pour la projection. Enfin, voilà, il y a une certaine logique dans tout ça. C'était pas clair sur le moment, mais en fait, oui, il y a une certaine logique dans la recherche de l'esthétique de l'image. Ouais.
Et pour toi, Étienne Tu as un parcours riche de toutes ses coutures. Il y a des choses que tu aimerais explorer encore?
Continuer à explorer le son, justement, dans d'autres formes que uniquement du film. Je m'intéresse justement à travers le son spatial à tout ce qui peut être des installations artistiques, des jeux, ce genre de choses, qui sont vraiment des lieux de création. J'ai fait de la radio un moment. J'écoute énormément la radio tout le temps et... Je pense que sur le son spatial, il y a aussi des choses super à faire dans un domaine uniquement audio, on va dire. Donc des installations ou des diffusions, en tout cas.
Super. Annie, tu voulais... rebondir sur d'autres éléments.
Tu me prends au dépourvu.
Désolée.
Parce que je regardais d'autres choses. Moi, je me demandais aussi, comme on avait reçu La Poste au mois de novembre, qu'il y avait peut-être des changements. Enfin, c'est un collectif avec plein de métiers différents. Comment ça allait pour vous depuis ces mois derniers? Est-ce qu'il y avait des nouvelles choses, des choses à savoir?
Plein.
Ah ben,
ouais. Déjà, on s'est structuré. Oui. Donc maintenant, on est une société... Le boulot, enfin en tout cas les choix qu'on a fait de se structurer ensemble, je pense qu'on est tous d'accord, et là je parle au nom de tous mes collègues, pour dire que c'était plutôt une riche idée, et puis du coup ça c'est vrai que là les projets commencent à affluer. Là il y a Cécile qui est au montage d'une série produite par France TV et OHNK, qui s'appelle... C'est une série documentaire en 6 épisodes, réalisée par un réalisateur qui s'appelle Thomas, et qui va se passe sur le... Excusez-moi, sur la pièce de théâtre de Thomas Joly à 6R3, donc en récit Richard III. Ouais. Donc sur toutes les étapes qui précèdent cet événement-là de 24 heures de théâtre.
Ouais.
Donc voilà. Et donc ça, c'est en montage chez nous. D'ailleurs, Étienne part demain faire la prise en mon tournage là-dessus.
En dépannage.
Au travail.
Voilà, et après, il y a des fictions, là. Il y a pas mal de courts-métrages qui arrivent et on bosse plus ou moins. Après, on n'est pas toujours tous dessus. Mmh. Mais quand même, on arrive à être à chaque fois 2-3 branches.
Ouais, l'idée, c'est de vous être structuré dans un collectif plus formalisé. C'est aussi de travailler plus souvent ensemble sur toutes les étapes de film ou ouais. De production, de réalisation.
Après, voilà, les demandes ne sont pas toujours les mêmes.
Bien
c'est vrai que nous, avec Étienne, souvent, on collabore parce qu'on arrive dans une étape de production, tous les deux, étalonnage, mixage, où la demande se fait un peu en même temps et la recherche se fait ouais. Un peu au même moment, en fait. Et donc, on peut être une solution tous les deux au même moment, en fait. Donc voilà, souvent, ça arrivait vraiment pas mal de fois qu'on soit tous les deux sur le même projet.
Mmh. Ce que je trouve très chouette à travers votre expérience de collectif, c'est que c'est une expérience qui témoigne qu'on n'est pas obligé d'habiter Paris pour faire du cinéma.
C'est une... je ne sais pas quel cinéma on fait du coup, non, mais c'est vrai qu'on a tous fait le choix, on a tous travaillé à Paris à un moment dans notre vie, je crois, sur ce ouais. Qu'on est. Je voulais juste rajouter sur l'évolution de La Poste, c'est qu'on va accueillir aussi donc une 6e personne à partir de cet été.
Ah bah, ça nous fera rejoint,
voilà. Et notamment pour s'occuper, bah, notamment de, un peu justement de notre développement... commercial, on n'est pas des super commerçants quand même.
Oui, puis il faut avoir le temps de tout
voilà.
Faire aussi.
Ouais,
enfin,
non,
et
précisément aussi pour continuer cette dynamique qu'on a mise en route il y a 2 ans et puis sur laquelle le Covid est quand même arrivé aussi en se rendant compte qu'on pouvait faire certaines choses à distance, que c'était pas impossible, même si je pense que on peut pas tout faire à distance. Mais du coup, c'est aussi précisément pour structurer auprès des producteurs, puisque ce sont un peu les personnes qui sont nos clients directement, on va dire. L'idée que effectivement, on peut faire des choses à Angers en étant une production parisienne ou une production nantaise ou une production d'un peu de n'importe où. Pourquoi pas? On a les mêmes compétences qu'à Paris et on a les personnes sont ce qu'elles sont, donc c'est aussi des choix de personnes souvent. Donc voilà, les gens, s'ils nous apprécient, ils viennent. Et puis voilà, c'est en train de se mettre, on va dire, dans la région, il y a 2-3 sociétés comme les nôtres qui ont un peu pris ce mouvement-là aussi. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut vraiment travailler dans les années qui viennent. Je pense que ça n'ira que... ça deviendra de plus en plus possible, en tout cas.
Bah, y a un enjeu, ouais. Ça, c'est clair. Mm. Et on s'est aussi créé pour ça.
Ouais. Eh bien, plein de choses partagées. Merci beaucoup. Merci Étienne Chambol. Merci Samuel Robin
Merci.
D'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Donc nous rappelons que vous faites partie du collectif La Poste et que votre site est laposte100e.fr.
Ouais,
merci infiniment.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Ame choro ça va.
On était dans la bande originale du Temps des Gitans, réalisée par Emir Kusturica, et dont Goran Bregovic a fait la bande originale. Vous écoutez Radio G, et pour conclure ce nouveau numéro de Caméra Subjective, on avait envie d'une chronique, envie d'entendre la voix de Margot, et d'entendre ses analyses et ses conseils. Alors voici la toute première chronique qu'elle a faite dans Caméra Subjective, c'était à l'ouverture de la saison radiophonique.
Alors pour cette première chronique de cette nouvelle émission de cinéma, j'ai choisi de vous parler de fin, F-I-N. Fermez les yeux et souvenez-vous. De part et d'autre de l'écran en noir et blanc, un couple nous fait face, assis dans une vedette qui fonce dans le soleil couchant. Le richissime Osgood vient de demander Daphné en mariage et celle-ci ne trouve pas d'argument assez convaincant pour refuser.
Osgood, je serai franche avec vous, nous ne pouvons pas nous marier du tout.
Pourquoi ?
Eh bien... pour commencer, je ne suis pas une vraie blonde.
Pas d'importance.
Je fume comme un sapeur.
Ça m'est égal.
Mon passé n'est pas beau. Je vis depuis 3 ans au moins avec un joueur de saxophone.
Je vous pardonne.
Ah. Hélas, je ne peux pas avoir d'enfant.
Nous en adopterons.
Vous ne comprenez pas ce goût. Ah.
Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait.
Vous l'aurez peut-être reconnu, c'était la séquence de fin du film Certains l'aiment chaud, chef-d'œuvre de la comédie hollywoodienne, écrit et réalisé par Billy Wilder. Avec dans les rôles principaux Marilyn Monroe et Jack Lemmon, qui dans cette dernière séquence ôte la perruque qu'il portait pour se travestir en femme et échapper ainsi à la mafia. Le film date de 1959, il y a donc plus de 60 ans, et pourtant les cinéphiles du monde entier se souviennent de cette réplique finale
« Personne n'est parfait »,
qui est d'ailleurs gravée sur la pierre tombale de Billy Wilder. Car Wilder, en scénariste puis réalisateur génial, a toujours su soigner les dialogues de ses films, notamment ceux qui les concluent, comme le rappelle l'écrivain britannique Jonathan Coe, qui signe un fabuleux roman sur le maître, Billy Wilder et moi, paru en avril 2021.
Et de quoi parle ce roman plus précisément ?
Le « et moi » du titre fait référence au personnage principal, Calista, la soixantaine, qui est une compositrice de musique de film un peu en panne, il faut bien le dire. Installée à Londres, ses projets peinent à aboutir après un début de carrière prometteur. Procédant par flashback récurrent, le film revient sur sa rencontre en 1977 dans un restaurant d'Hollywood avec une célébrité du cinéma américain de l'époque, Billy Wilder évidemment. Calista n'a pas 20 ans, elle ne connaît rien au cinéma, mais son interlocuteur prestigieux la prend pour cobaye et la bombarde de questions. Réalisateur sur le déclin, il veut comprendre ce que les jeunes se pressent pour voir sur grand écran. Et les ambassadeurs du cinéma n'existaient pas encore à cette époque. De ce dîner étonnant découle une invitation sur le tournage du nouveau film de Wilder, Fedora, qui doit se dérouler à l'été 1978 sur une île grecque. Ça tombe bien, parce que Calista est grec et va pouvoir servir d'interprète au réalisateur et à son équipe. De fil en aiguille, la jeune femme, et vous et moi avec elle, s'initie à l'envers du décor, c'est-à-dire aux aléas d'un tournage chaotique entre la Grèce, l'Allemagne et le Royaume-Uni, aux relations houleuses entre comédiens et réalisateurs, et aux doutes de l'équipe, à commencer par ceux du co-scénariste fidèle de Wilder.
Tu évoquais tout à l'heure l'idée de fin.
Oui, la force du roman de Jonathan Coe, c'est sa tonalité crépusculaire assumée. Toutes les pistes narratives du livre se rejoignent dans cette idée de fin. La fin d'une immense carrière, pour commencer, tant l'étrange Fedora peut se voir comme le chant du cygne d'un réalisateur hors du commun, dont la carrière a commencé dans les années 30 en Europe et a été couronnée de pas moins de 6 Oscars aux États-Unis. Le roman de Jonathan Coe, incroyablement documenté sur le parcours de Wilder en général et le tournage de Fedora en particulier, lui rend un hommage à la fois bouleversant et hilarant. Coe dépeint Wilder comme un vieux lion ayant perdu de sa superbe, dépassé par de fringants concurrents à la crinière ou la barbe bien fournie. Ces barbus désignent dans la bouche désabusée de Billy Wilder lui-même les réalisateurs du nouvel Hollywood. Ce sont les Spielberg, les Lucas ou les Coppola qui imposent dans les années 70 une nouvelle façon de raconter des histoires, à des années-lumière ou des galaxies très lointaines du cinéma raffiné de Billy Wilder. Par petites touches, Jonathan Coe brosse le constat de cette fin d'un monde, celui de l'âge d'or des grands studios d'Hollywood, sur lequel Wilder régnait en maître. Les financements de son avant-dernier film, Fedora, proviennent d'ailleurs d'Europe, d'Allemagne ironiquement, et non d'Hollywood. Il faut dire que la tonalité sombre du scénario de Fedora, à rebours des comédies qui ont fait le succès du réalisateur, peine à convaincre. Le film s'ouvre sur l'enterrement de son personnage principal, l'actrice Fedora, star déchue du cinéma. Non sans malice, Jonathan Coe fait résonner dans son livre le déclin de l'étoile Wilder avec celui de Fedora, adulé en son temps.
Tu parlais d'Allemagne.
Effectivement. Dans ses chapitres peut-être les plus émouvants, Billy Wilder et moi évoquent la fin d'une certaine innocence, celle de toute une génération qui a fui le nazisme. Samuel Wilder, dit Billy Wilder, est né en 1906 en Pologne, dans une famille d'origine juive. Sa jeunesse est marquée par l'exil, Vienne, puis Paris, Londres et enfin Hollywood. Wilder sera hanté toute sa vie par le souvenir obsédant de sa mère disparue. Dans un chapitre déchirant, le roman le dépeint visionnant jusqu'à l'épuisement à la recherche d'un éventuel indice, les rushs des premiers journalistes qui ont filmé la libération des camps de concentration. C'est avec cette idée universelle de filiation tourmentée que s'ouvre et s'achève le roman. À travers le personnage de Calista, qui accompagne sa fille étudiante à l'occasion de son départ à l'étranger, Jonathan Coe tisse un parallèle entre progéniture et film. Les œuvres sont pour leurs créateurs comme des enfants pour leurs parents. Après des années à les couver, les maturer, les rêver, il faut savoir accepter la séparation. Pour Calista, la fin de cette maternité active se traduira par une renaissance inespérée. Pour Wider, renoncer à son aura de réalisateur star sera plus amer.
Billy Wilder et moi, de Jonathan Coe, est traduit par Marguerite Capel et édité chez Gallimard.
Le film Fedora de Billy Wilder est disponible en VOD et en DVD dans une très belle version restaurée, éditée par Carlotta.
Et Caméra Subjective, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Sur le site de Radio G et à la page de l'émission, oui, on est un tout petit peu en retard, vous pouvez retrouver tous nos podcasts pour nous réécouter à loisir, ainsi que toutes les références dont nous avons parlé ce soir et les autres soirs. Vous pourrez donc suivre les actualités de La Poste et lire ce livre de Jonathan Coe, recommandé par Margot. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours via cette même page. Vous pouvez même nous laisser des messages audio. C'est très, très moderne. En attendant de vous lire ou de vous entendre, on vous souhaite une très belle soirée, une bonne quinzaine. À dans 2 semaines, même heure, même antenne.